Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dans son roman Le Fléau de Dieu, paru chez Flammarion, André Ajap raconte les ravages de la Grande Peste au milieu du XIVe siècle. Franck Ferrand a choisi de consacrer une émission à cette page effrayante de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je disais à l'instant à Jean-Michel Apathy que la Grande Peste de 1348 avait décimé plus d'un tiers de la population européenne. C'est sans doute le plus grand fléau que l'on ait connu dans l'histoire occidentale. Et pour nous en parler, j'ai convié cet après-midi une médiéviste avertie que connaissent bien les étudiants de la Sorbonne. Claude Govard nous fait l'honneur d'être des nôtres.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Audrey sur l'origine des noms donnés au continent.
Pour le moment, nous nous rendons en Sicile. À la fin de l'année 1347, la peste noire vient d'y faire son apparition.
Europe 1. Cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Un jour brumeux d'octobre 1347, nous sommes à Messine, à la pointe orientale de la Sicile. Une douzaine de navires génois apparaissent à l'horizon et bientôt, on les voit approcher du port de Messine. Sur les fières embarcations qui sont un peu l'emblème, qui sont aussi l'instrument de la puissance de la République génoise, il y a, on peut l'imaginer, des richesses venues d'Orient. Mais pas seulement. Les embarcations en question transportent aussi un nombre important de malades, et certains dans un état pitoyable. Ils ont déjà l'apparence de cadavres, le corps couvert de marques sombres, déformées par des grosseurs. Leurs souffrances sont visiblement terribles, et l'odeur qu'ils dégagent, difficilement supportable. Transportés par ces pauvres marins, ou peut-être par des rats et des puces au fond de la cale, la peste et du voyage. Elle attend son heure, cruelle, insatiable. Elle est prête à dévorer tous ceux qu'elle pourra atteindre. Les bateaux accostent donc au port sicilien. Les marins, du moins ceux qu'ils peuvent, évoquent l'horreur qu'ils viennent de vivre. Encore deux semaines auparavant, ils étaient à Caffa, un comptoir génois situé sur la rive nord de la mer Noire, en Crimée. C'est une plaque tournante, Caffa, une plaque tournante du commerce avec l'Orient, tellement stratégique pour les commerçants venus de la péninsule italique. Cette place était à l'époque encerclée par une armée tartare, une armée qui bientôt se trouve frappée d'un mal étrange et un mal qui a décimé ses rangs. Les tartares ont compris que leur siège était compromis. Mais avant d'abandonner la place, avant de lever le siège, ils ont eu l'idée funeste de catapulter des cadavres purulents vers l'intérieur de la ville de Caffa. On pourrait presque parler d'une arme biologique avant l'heure, d'une certaine manière. Et cette arme n'a pas tardé à faire son œuvre fatale. La mystérieuse peste des Tartares s'est déclarée dans la cité marchande. C'est alors, si l'on suit le récit du docteur Paul Gagnère, que plusieurs marchands ont décidé de charger leur bateau de richesses et de partir le plus vite possible, de s'embarquer loin de la pestilence. Simplement, c'était simplement répandre le mal. Le voyage précipité de ces navires qui fuient la Crimée tourne au tragique. On réalise bientôt que plusieurs marins sont atteints par le mal qu'ils avaient tenté de fuir. Les premiers cadavres n'ont pas tardé à être jetés par-dessus bord, mais il va en être ainsi pendant d'interminables journées, jusqu'à l'arrivée en Sicile. Quand les autorités de Messine apprennent cette histoire, elles vont prendre une lourde décision, puisque les bateaux contaminés sont renvoyés à la mer. En éloignant ainsi le plus rapidement possible l'effroyable maladie, les autorités ont espéré qu'il y avait une chance pour que la ville soit épargnée. La vérité, c'est qu'il est déjà trop tard. Voilà ce que nous dit Paul Gagnère. Quelques heures après la mise en œuvre des cruelles mesures de protection édictées par les autorités de Messine, les premiers pestiférés étaient déjà signalés parmi les habitants de la cité. La nouvelle se sait rapidement, un vent de panique saisit la ville, nombreux sont ceux qui décampent et ce faisant, ils répandent involontairement la peste. Le mal passe de personne en personne, de ville en ville, de port en port, De nombreuses régions sont bientôt touchées et on identifie d'emblée deux formes de peste. Il y a la célèbre peste bubonique qui tire son nom des bubons, bien sûr. Vous savez, les bubons, ce sont des grosseurs purulentes qui peuvent avoir la taille d'un abricot, voire même davantage, et qui se forment au niveau des ganglions, notamment sous l'aisselle ou à l'aine. Cette variante de la peste s'accompagne en général de fièvre et de migraines violente et elle se communique par simple contact. On estime qu'elle est mortelle dans 60 à 80% des cas, selon surtout l'état du sujet, il faut bien le dire. La deuxième forme, la forme pulmonaire, s'attaque évidemment aux voies respiratoires. Elle entraîne la suffocation de la personne atteinte qui n'a quasiment aucune chance d'en réchapper. Cette déclinaison est d'autant plus effroyable qu'elle se transmet simplement par les particules projetées par le malade en respirant. Ça veut dire qu'il suffit de passer à proximité quelques instants pour que votre propre vie ne tienne plus qu'à un fil. Barbara Tuchman précise, dans les deux cas, toutes les déjections des malades avaient une odeur affreuse, dépression, accablement accompagnaient les symptômes physiques, la mort était écrite sur le visage bien avant la fin. On peut imaginer l'effroi qui gagne les îles et la péninsule italienne à la charnière des années 1347-1348, alors que la peste gagne sans cesse du terrain, elle parcourt, dit-on, plusieurs dizaines de nos kilomètres par jour. Et bientôt, d'autres foyers vont donc se créer. Des foyers se déclarent dans certains ports européens. Par exemple, pendant l'hiver, un navire infecté aborde à Marseille. Et c'est reparti, et ça fait un nouveau foyer. Les morts se comptent désormais non plus par centaines, mais par milliers. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on peut affirmer à ce moment-là que l'Europe n'a encore rien vu.
Symphonie fantastique d'Hector Berlioz sur Europe 1. Restez avec nous. Franck Ferrand vous fait revivre cet après-midi jusqu'à 15h la peste qui a frappé au milieu du XIVe siècle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de consacrer votre émission à la peste noire qui frappe au milieu du XIVe siècle, la peste noire qui s'apprête à semer la terreur en Europe.
Et oui, cette peste qui frappe tous et chacun sans distinction, que vous soyez paysan, évêque, propriétaire, ribaude, jeune ou vieux, vous n'êtes pas à l'abri, la grande faucheuse est là, elle suit les voies de communication, cette peste terrasse les régions les unes après les autres. Les plus aisés, c'est vrai, ont quand même la possibilité de se tenir un peu à l'écart. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec Claude Gauvard. Il y a quand même des moyens d'éviter la peste en se retranchant du monde, tout simplement. Mais faut-il encore pouvoir se le permettre, évidemment. Les villes, en raison de leur population très nombreuse, d'un habitat qui n'est pas du tout ce que nous pouvons connaître, hein, évidemment, c'est un habitat assez rudimentaire, on s'entasse dans certaines maisons. Tout ça facilite, bien entendu, la propagation de la maladie, avec un manque généralisé d'hygiène et des scènes effroyables. Voilà ce que nous dit Barbara Tuchman. Dans Avignon surpeuplé, on assurait que 400 personnes mouraient chaque jour. 7000 maisons vides avaient été fermées et un seul cimetière avait reçu 11 000 corps en 6 semaines. Une fois que tous eurent été remplis, ces cimetières, on jeta les morts dans le Rhône jusqu'à ce que les fosses communes fussent creusées. Des scènes d'horreur comparables se répètent pendant tout le cours des années 1348 et 1349 à Florence, à Brême, à Paris, à Londres. Vous voyez que ça gagne, bien entendu, au fil du temps. La peste parvient même, dit-on, jusqu'à l'Islande et jusqu'au Groenland. En certains endroits, les morts sont si nombreux qu'on ne sait plus quoi en faire, sinon les rassembler dans les rues. Chaque journée apporte son lot de tragédies, les familles sont décimées, les villages, pour certains d'entre eux, sont, en tout cas les hameaux, sont rayés de la carte. Dès que le mal trouve une porte d'entrée, il se propage. Les milieux fermés, c'est-à-dire les monastères, les prisons, etc., sont incroyablement vulnérables. Voilà ce que nous dit Barbara Tuchman. Le frère de Pétrarque, Chartreux, enterra l'abbé et 34 moines, parfois 3 par jour, jusqu'à ce que, resté seul avec un chien, il s'enfuit à la recherche d'un asile qui voulut bien l'accueillir. Et alors que la lame de désolation déferle sur l'Europe, la société médiévale se révèle démunie. Disons-le, la médecine de l'époque est encore plus lacunaire que ne l'est la nôtre. Elle fait certes quelques tentatives, alors on saigne des malades, on prescrit des purges, on brûle les fameux bubons horribles, toutes sortes de mixtures à base de plantes ou de substances animales, voire même de pierres précieuses pour les cas des malades les plus fortunés sont essayés, des brasiers sont entretenus à l'intérieur des logements, on essaie de diffuser des essences odorantes, de purifier l'air, de débarrasser l'air de cette odeur pestilentielle qui est tellement tenace. Les autorités au pouvoir tentent d'intervenir de manière plus ou moins efficace. Alors on instaure des quarantaines tout de même. On essaie même d'instaurer ce qu'on pourrait nous qualifier de cordon sanitaire. Il y a des actions radicales pour endiguer le mal. Voilà ce que nous dit encore Barbara Tuchman. Jean Visconti, despote de Milan, fit murer avec tous leurs occupants mourants et bien portants à l'intérieur les 3 premières maisons où la peste avait été découverte. Que c'eût été grâce à cette promptitude ou pour toute autre raison, Milan eut très peu de victimes à déplorer. Comme quoi, parfois, cette cruauté peut avoir de bons effets. À Paris, en octobre 1348, le roi Philippe VI, commande à la faculté de médecine de se pencher sur la peste. Alors, voilà ce que les éminents professeurs et leurs confrères vont nous dire. Leurs conclusions, vous allez voir, sont implacables. Pour eux, nous dit Paul Gagnère, en raison de la conjonction sidérale de Saturne, Jupiter et Mars, les rayons du soleil et la chaleur du feu céleste, changeant la lumière en ténèbres, avaient exercé leur action néfaste sur les flots de la grande mer au large de l'Inde. Les vapeurs délétères nées de ce phénomène avaient lentement cheminé vers l'ouest où sévissaient de profonds dérèglements. Ça, jusque-là, on peut approuver. Elles s'y étaient fixées et y exerçaient leurs méfaits tant que le soleil demeurerait dans le signe du lion. Il n'y avait donc à attendre la sortie du signe du lion pour espérer un mieux. Malgré la puissance de cette démonstration, on s'attache un peu partout à une explication plus rudimentaire. Dès les débuts de la terrible épidémie, la même question se répète, le fléau. Ce fléau tellement puissant, tellement impitoyable, ne serait-il pas simplement envoyé par Dieu pour punir les hommes? Et voilà la vieille culpabilité occidentale qui vient se mêler à tout cela.
La peste noire du XIVe siècle est à l'honneur cet après-midi. Franck Ferrand vous raconte comment cette maladie a décimé une grande partie de la population. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions à Franck Ferrand et son invité sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La peste noire aurait tué une grande partie de la population. En effet, vous nous en parlez cet après-midi, Franck Ferrand. Il est temps maintenant de trouver des solutions.
Oui, on peut estimer que la peste, c'est très difficile, il n'y avait pas de statistiques à l'époque, et on peut estimer qu'elle a décimé qu'elle a tué entre un tiers et la moitié de la population. Donc si vous avez une population 14e siècle et d'un peu moins de 20 millions en France, vous voyez, ça fait beaucoup de monde. Et évidemment, il faut ajouter tous les pays d'Europe, puisqu'encore une fois, la peste s'est répandue sur l'ensemble du continent. On l'a dit, jusqu'à des latitudes extrêmement élevées, jusqu'en Islande et au Groenland. Vous voyez, bon. Alors, évidemment, on se pose la question d'une punition divine. C'est le châtiment de Dieu, cette peste. Évidemment, c'est ainsi qu'on l'interprète. À l'époque, c'est assez naturel. Et évidemment, pour essayer de calmer la colère de Dieu, un certain nombre de solutions sont proposées, des plus simples aux plus tragiques. La ville de Rouen, par exemple, ordonne de mettre fin à tout ce qui pourrait irriter le Seigneur. Le jeu, les jurons, la boisson. Plus généralement, les processions sont organisées un peu partout. Elles durent jusqu'à 3 jours, vous imaginez, et elles rassemblent des foules. Et vous imaginez bien que, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, et l'incroyable facilité de la contagion, ces rassemblements de masse ne sont qu'un moyen de propager un peu plus la maladie. À cela s'ajoutent des prières de groupe, la pratique du jeûne, sauf que le jeûne, ça affaiblit les organismes et que ça n'est pas non plus ce qu'il faudrait faire en période d'épidémie, des démonstrations de dévotion à Saint Roch, bien entendu, hein, qui est le patron des pestiférés, et à la Vierge Marie, l'organisation de grands pèlerinages. On cherche aussi, nous l'oublions pas, et puisque nous venons de perdre René Girard, signalons cet aspect, on cherche aussi des boucs émissaires, bien sûr, qui sont réputés responsables du courroux divin ou simplement accusés de l'empoisonnement des puits ou des cours d'eau, parce que parfois on cherche aussi des explications rationnelles à ce qui se passe. Suivant des initiatives souvent populaires, les communautés juives sont prises pour cible dans de nombreuses villes d'Europe. Il y a des scènes vraiment là d'une horreur insoutenable. Par exemple, en janvier 1349 à Bâle, des centaines de personnes sont placées dans un bâtiment de bois qui a été aménagé spécialement et elles sont brûlées vives. Le pape Clément VI fulmine contre ce genre de comportement, bien entendu. Il adresse aux populations 2 bulles pour s'opposer avec vigueur aux violence contre les juifs. Il n'empêche que la haine aveugle des populations l'emporte le plus souvent. Et puis alors, vous avez ce phénomène dont on va reparler tout à l'heure, qui se répand. Ce sont ces groupes de flagellants qui se forment pour prêcher un repentir public des fautes de l'humanité. Alors ils marchent de ville en ville, ils sont très actifs dans le monde germanique, mais on en trouve aussi en Picardie, en Champagne. Voilà ce que nous dit le docteur Gagnère. On vit des groupes d'illuminés parcourir nuitamment les campagnes en chantant des cantiques inconnus. Au petit matin, ils s'arrêtaient dans un village, faisaient un grand cercle autour de la principale église, se dénudaient jusqu'à la ceinture, se déchaussaient et devant les habitants stupéfaits, se précipitaient le visage contre terre, les bras en croix, hurlaient des malédictions, puis saisissaient leur fouet armé de pointes de fer et se flagellaient jusqu'au sang. Ils sont persuadés de montrer la voie pour se racheter aux yeux de Dieu, ces flagellants qui appellent aussi souvent à la haine et qui entrent dans cette logique de défiance vis-à-vis des autorités civiles et religieuses. Et ça n'est pas la moindre des conséquences de cette peste noire que d'avoir durablement affaibli les structures de gouvernement locales, mais aussi, nous le verrons, à l'échelle des royaumes. Le pape et nombre de souverains vont également chercher à les faire disparaître. Peu à peu, les groupes de flagellants vont se faire moins nombreux et on va les voir quand même s'éteindre. J'ai envie de dire, évidemment, le phénomène n'a été qu'un feu de paille, mais ça n'en a pas moins marqué les consciences. Ça correspond aussi, semble-t-il, au moment où l'épidémie de peste cesse les immenses ravages sur le continent. Donc on est là dans les années 1351-1352. L'Europe, à l'époque, reprend son souffle. La vague mortelle est passée. Il va quand même falloir du temps pour se remettre de la catastrophe. Si des évaluations sont encore une fois difficiles à exprimer, on estime que entre un tiers et la moitié de la population, encore une fois, pour ceux qui nous rejoindraient, a été atteinte par cette peste. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient atteints, écrira plus tard, vous savez, La Fontaine dans sa fable Les animaux malades de la peste. Certaines régions sont plus durement touchées que d'autres. Au total, l'épidémie aura eu des conséquences presque incalculable sur tous les domaines de la vie publique, sur la pratique même de la religion, sur l'économie, c'est une évidence, sur la vie quotidienne, sur les mœurs et les habitudes. On va voir tout ça dans un instant avec Claude Govard. Elle a eu cette épidémie des conséquences aussi sur l'organisation des territoires, je vous le disais. Elle a touché les populations de manière aléatoire, évidemment, créant d'ailleurs des déséquilibres entre les corps de métier, ce qui fait qu'il y a des secteurs entiers de l'activité qui se sont trouvés du jour au lendemain désertés en quelque sorte. Et la main d'œuvre s'est mise à manquer. une main-d'œuvre qui manque, ça veut dire qu'on augmente les salaires et ça va être le début d'une crise financière qui, alors elle, aura des répercussions jusqu'à la fin du XVIe siècle. L'Europe connaît avec cette épidémie l'une des plus dramatiques de son histoire, une période terrible. On peut pas dire qu'elle en est finie avec la peste, hein, pour autant, car il y aura encore des pestes par la suite, jamais aussi effroyables, avec des conséquences souvent un peu moins terribles. Quoique, rappelez-vous, je vous avais raconté ça, j'ai même eu l'occasion de vous le raconter plusieurs fois, ici et à la télévision, rappelez-vous la dernière grande peste d'Occident, celle de Marseille en 1720, qui a tué, là encore, quasiment la moitié de la population marseillaise. On est en 1720, vous voyez que ça a encore eu des répercussions jusque dans une époque extrêmement récente. Il n'empêche, la peste, au-delà de ses conséquences pratiques, a eu aussi des conséquences sur les consciences, sur la culture, sur la façon même d'envisager la mort. C'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour Claude Gauvard.
Bonjour.
Nous avons beaucoup à dire sur ce fléau terrible dont on a presque peine à se représenter l'ampleur aujourd'hui. Nous y venons avec vous dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
La grande peste du XIVe siècle, la peste noire, aurait tué entre 30 et 50% de la population européenne. On en parle avec vous, Franck Ferrand, cet après-midi. Et avec votre invité, vous recevez Claude Gauvard, historienne médiéviste, professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Alors Claude Gauvard, un de nos auditeurs, Aurélien, pose une question qui me paraît très pertinente. Y a-t-il eu des personnages historiques, des personnages célèbres, qui soient morts de cette fameuse peste ?
Non, pas les rois, ni les reines. D'ailleurs, tout simplement parce que, comme vous l'avez très bien dit, ils se protégeaient beaucoup à l'intérieur de leur palais. Et quand ils allaient en déplacement, ce qui était le cas, ils envoyaient des émissaires pour savoir si dans la ville où ils allaient se retrouver, il y avait l'épidémie. Car, comme vous l'avez aussi dit, la peste noire, c'est très important, 1348 jusqu'en 1350 environ. Mais les résurgences de peste, tous les 10 ans.
Ça n'arrêtera plus.
Ah non, ça n'arrête pas. Tous les 10 ans à peu près, même si on ne sait pas très bien, si vous voulez, c'était vraiment des résurgences de peste, parce que le mot peste est un mot générique.
Oui, c'est-à-dire que peste, ça veut dire à peu près toutes les épidémies.
Oui, voilà, la variole, par exemple. En 1438, il y a une épidémie de variole qu'on appelle peste. Mais je dirais, c'est secondaire. Il y a toujours des épidémies jusqu'à la fin du XVe siècle, grosso modo.
Donc je disais tout à l'heure que tout le monde pouvait être atteint, c'est une évidence. Mais il est certain que si vous avez les moyens de vous mettre totalement à l'écart, de vous retrancher dans une propriété bien gardée et de ne pas entrer en contact avec les gens infectés, par définition, vous pouvez être sauvé. Et en l'occurrence, il faut constater, c'est vrai, je ne m'étais pas fait la réflexion, mais Aurélien a raison de le faire remarquer, il n'y a pas eu de roi, de reine ou de personnage très important qui ait subi les conséquences de la peste.
Pour vous donner un exemple d'une personne justement particulièrement privilégiée, je prendrais celle de Guillaume de Machaut, grand poète du XIVe siècle, musicien, qui était chanoine de Reims, qui avait quelques moyens, et qui était très raisonnable en ce sens qu'il avait comme ami un des médecins qui a tout de suite réagi d'ailleurs, avec un traité de la peste, qui était Pierre de Damousy, et qui disait surtout, restez chez vous. Bon. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Et il y a un très joli poème de 1349 où il explique « En ma maison m'enfermait et dans ma pensée m'enfermait fermement que l'on partirait jusqu'à attendre que je s'arroie, à quelle fin on pourrait venir ?» Donc, il est resté tout le temps, si vous voulez, de l'épidémie et il a eu la vie sauve.
Pour survivre, claquemurons-nous.
Voilà.
C'est ça,
Mais c'est cette idée. Très étranger, cela, à ce qu'on pourrait appeler une mentalité médiévale et surtout à l'attitude devant la mort.
Parce qu'on vit toujours en groupe au Moyen-Âge.
Voilà. On vit en groupe et surtout on meurt en famille. Alors là, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai trouvée dans une de mes archives préférées, les archives criminelles. On est en 1385, dans la région de Reims, justement. C'est très intéressant de voir l'attitude du privilégié chanoine qui s'enferme et une femme, la veuve Bourret. Je ne saurais pas vous dire qui elle est, bien évidemment, mais c'était une femme certainement assez pauvre, veuve, et qui vivait de son marché, c'est-à-dire qu'elle allait sur l'étal à la place du marché voisin de Reims. Et puis là, bon, des voisins sur le marché l'attaquent en lui prenant son étal. Elle est blessée. Et elle rentre chez elle. 8 jours après, elle meurt. Donc, celui qui l'a agressée est obligé de demander une lettre de grâce au roi de France. Et c'est comme ça qu'on a le récit. Quand elle est arrivée au marché, dit le texte, ses amis lui disent « Oh, tu as pâle couleur !» Et elle leur répond « En venant au marché, la bête m'a prise. » La bête, c'est la peste. Oui. C'est magnifique. Assez émouvant, il faut le dire, ce récit. Et au lieu, effectivement, de rester,
en fait,
voilà, au lieu de rester et de s'isoler, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va alors dans sa famille. Et là, le texte est terrible, hein, parce que 4 jours après, dit le texte, la dite bourrée, sa mère et ancien fils, en son hôtel, en un seul jour, de la bosse, à l'air de vie à trépassement, comme faisaient plusieurs de la dite ville.
Ah oui, c'est-à-dire voilà. En fait, elle a propagé elle-même la maladie.
Absolument.
Pour pouvoir mourir au milieu des
voilà.
siens.
Voilà, exactement. Idée, hein. Et elle est revenue. Et c'est une façon de mourir pour que ça soit une bonne mort. C'est très important, à l'époque médiévale qui nous intéresse là, d'avoir une bonne mort. La malmort, c'est justement de mourir seule. Ou de mourir, si vous voulez, de façon, rapide, sans avoir de consolation, ni du prêtre, bien sûr, mais aussi
et de son
de
entourage
ses
familial,
amis.
Oui, voilà, voilà, de ses proches, amis. Oui, voilà. Il y a aussi un aspect, c'est que si les rois et les reines ne meurent pas, si je puis dire, c'est peut-être qu'ils sont aussi en meilleure santé. La peste s'attaque plus volontiers à des organismes affaiblis. Or, Dieu sait qu'il y en a des organismes affaiblis dans cette société du début du XIVe siècle.
Oui, parce que, alors ça, c'est un problème que se posent les historiens. Est-ce que la peste a frappé tout le monde de façon indifférencié, ou bien est-ce qu'elle a frappé surtout les plus pauvres? Très difficile de répondre à cette question. La peste pulmonaire frappe tout le monde,
oui, ça,
vous l'avez dit, 100%.
La contagion est totale.
100%. La peste bubonique, c'est plus compliqué. Depuis le début du XIVe siècle, dans le nord de l'Europe, depuis à peu près 1315, les famines sont à répétition. Mais c'est vrai aussi dans le Midi. En 1330, grosse famine dans le Midi, on a des récessions démographiques sensibles avant la peste noire. C'est ça qui est très intéressant pour l'historien. La peste noire, c'est dramatique, mais dès 1330, la population commence à baisser. Dans les villes, comme dans les campagnes.
Donc il y avait déjà quelque chose, avant même l'arrivée de la peste.
Tout à fait. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour expliquer cette explosion de mort? Qui est un traumatisme formidable. Je suis, bien sûr, je pose les points d'interrogation, hein, les historiens n'arrivent pas à résoudre tout, on peut poser les problèmes. On a aussi pensé qu'elle frappait davantage les jeunes que les vieux. C'est aussi là un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que, là encore, il faut qu'on se méfie de nos sources. Les chroniqueurs décrivent le fait divers, c'est-à-dire ce qui est le plus spectaculaire. Qu'est-ce qui est le plus spectaculaire aux yeux de ces gens-là? C'est le fait que le fils meurt avant le père. On reprend la phrase biblique. Le fils n'enterrait plus le père. Et c'est ça qui est un scandale. Donc, que les jeunes meurent, c'est scandaleux.
Une distorsion à travers même la façon dont sont relatés les événements.
Tout à fait. Alors là, il faut qu'on se méfie. Alors, certains historiens ont dit, c'est une peste prolétarienne et infantile.
Facile
moi,
à dire, ça,
sur ouais. l'infantile, prolétarienne, je serais assez d'accord. Infantile, je n'en suis pas sûre. Moi, je me méfie beaucoup des stéréotypes répétés par les chroniqueurs. Les jeunes meurent. Oui, les jeunes meurent. C'est ça le scandale. Mais ce qui meurt plus que les vieux, c'est un autre point d'interrogation. Alors, ce dont on est sûr, en revanche, c'est que certaines professions ont été touchées. Alors, vraiment, plus que
volontiers
les autres,
que d'autres, oui.
Ben oui, les médecins, les notaires. Parce que très rapidement, on va faire ces...
Oui, voilà.
Et les fossoyeurs. Ces fameux... Alors là, on est devant des gens très pauvres. Ces fameux cagots qui descendent des montagnes, aussi bien en Provence que dans les Pyrénées, parce qu'ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont plus rien à manger, qui descendent et qui sont employés comme fossoyeurs, bah, ils meurent à l'appel, hein.
Ah oui, bien entendu, c'est le cas de le dire en l'occurrence.
Voilà.
C'est passionnant de vous écouter, Claude Gauvard, parce qu'au-delà de cette fresque que vous nous brossez de la société du XIVe siècle, il y a toute cette méthodologie historique que vous mettez en avant. Et j'en profite pour signaler qu'avec Jean-François Cirinelli, vous avez dirigé un dictionnaire de l'historien édité aux Presses universitaires de France, qui est un véritable régal. Alors dans un instant, nous allons voir les conséquences de la peste sur la société, sur les mentalités, sur la culture.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
La mort m'attend comme une vieille fille au rendez-vous de la faucille pour mieux cueillir le temps qui passe. La mort m'attend comme une princesse à l'enterrement de ma jeunesse pour mieux pleurer.
Jacques Brel, La mort sur Europe 1 cet après-midi. C'est la grande peste de 1348 dont vous nous parlez, une peste noire qui a duré environ 5 ans, Franck. Et pour nous en parler, vous recevez Claude Gauvard, historienne médiéviste, professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Il faut, Claude Gauvard, que nous parlions des conséquences de cette peste sur une société qui donc était déjà affaiblie et qui va se trouver déstructurée, il faut bien le dire. C'est une forme de chaos qui s'instaure.
Alors, j'irai pas jusque-là, mais bon... Enfin, dire d'abord qu'il y a un profond désarroi démographique, hein, un effondrement démographique, ça c'est incontestable. Village déserté, village rayé de la carte, c'était l'idée de Marbloch, je suis pas sûre qu'elle soit juste, je suis même peut-être plutôt sûre du contraire. Les structures ont bien résisté, beaucoup plus que les individus.
Très solide, hein.
Voilà. Les structures ont bien résisté, la paroisse a bien résisté, les institutions ont bien résisté. Et si vous réfléchissez, quand vous avez la moitié de la population qui a disparu et que vous avez le même nombre d'officiers qui sont quand même nommés pour encadrer, on va dire, la société, vous avez un rapport entre le dominant et le dominé qui n'est pas tout à fait... en faveur du dominé, il est plutôt en faveur du dominant.
Oui, bien sûr.
Donc, quelque part, si vous voulez, je dirais que paradoxalement, la peste noire a même plus, d'une certaine façon,
renforcé un peu la société.
Voilà, stabiliser et renforcer l'État, en ce qui concerne la France, par exemple, ou même les villes d'Italie qui étaient des cités-États. Donc, il faut faire très attention. Hein. Je dirais que les individus ont mal résisté, c'est vrai. Moyennant quoi, vous avez un exode rural énorme. Parce que ceux qui sont restés étaient déstabilisés, sont allés vers les villes. Les villes entassées ont eu des populations qui ont chuté, mais en même temps, elles se sont nourries de l'exode rural et de l'immigration, par conséquent. Et du coup, à nouveau, si vous voulez, à la suite des pestes qui se sont renouvelées, des effondrements démographiques successifs.
Et on a vu un certain nombre, alors il faut là encore sans doute être prudent, mais on a vu un certain nombre de pratiques se développer en faveur d'une meilleure hygiène. C'est-à-dire que les mœurs ont un peu évolué aussi grâce à la peste.
Tout à fait, au fur et à mesure de la réflexion et puis du face-à-face avec la mort, hein, les autorités municipales ont effectivement développé l'hygiène en interdisant par exemple de jeter les cadavres dans les fleuves, hein, ou les boues, etc. Et on a... une sorte de réflexion sur les immondices, sur l'air qu'on doit respirer, Hein. Tout ça ne va évidemment pas très loin, mais quand même, alors, c'est la première, comment dire, cela va avec assez bien avec ce qu'on pourrait appeler l'honneur de la ville qui se développe et qui fait que la population doit être bien salubre. Voilà, la salubrité, cette idée de salubrité.
Voilà. J'ai insisté tout à l'heure sur les flagellants et sur les rites sacrificiels, parce que c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Mais l'essentiel des démonstrations religieuses en rapport avec la peste ont été des processions.
Hein, essentiellement. Ce sont des processions.
Ce sont des grandes processions qui n'en finissent plus, d'ailleurs, qui vont modifier en partie les rites. D'ailleurs, là aussi, ça fait évoluer les pratiques de la religion, d'une certaine manière. Avec certains saints que l'on met en avant.
Vous avez parlé de Saint-Roch. Saint-Roch, par exemple. Saint-Sébastien aussi.
Voilà, bien sûr. Et qu'on va voir comme par hasard pourquoi y a-t-il tant de Saint-Sébastien au XVe siècle. Eh bien parce que c'est en lien direct avec cette peste. Et puis, et ça c'est peut-être plus intéressant pour nous, une évolution du regard, alors on ne va pas revenir à Philippe Ariès, etc., mais du regard qu'on porte sur la mort peut-être.
Oui, alors là aussi, le problème d'une mort qui serait devenue individuelle et flamboyante,
c'est ça.
Ça aussi, ce sont des choses sur lesquelles les historiens réfléchissent beaucoup. Il y a des démonstrations flamboyantes, incontestablement. Mais il y a aussi, si vous voulez, une mort bien jugulée par la paroisse quand même, qui se maintient et qui fait que le cimetière commun reste quand même le point de repère de la communauté, vous voyez, et de la communauté chrétienne, sans qu'il y ait de démonstration forcément individuel. Surtout dans le Nord, on pourrait opposer peut-être un Midi plus flamboyant et un Nord plus sage, d'une religion plus tranquille.
Est-ce qu'on personnifie la peste, la grande faucheuse dont je parlais?
Ah oui, bien sûr. Oui. Bah, regardez le Campo Santo de Pise.
C'est ça.
C'est le triomphe de la mort, hein. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est aussi le triomphe de la peste. Hein.
On parle des danses macabres qui vont se dessiner aux fresques des murs.
Ça aussi c'est très intéressant parce que le macabre c'est quelque chose qui apparaît, le thème de la mort, si vous voulez, c'est quelque chose qui apparaît avant la peste, mais que la peste a amplifié incontestablement. La première mention du mot macabre, vous voyez, elle date de 1376. C'est Jean Lefèvre de Macabre fit la danse. Et puis, on voit apparaître la danse macabre à la Chaise Dieu, on est en 1410, puis au cimetière des Innocents à Paris, 1425, et puis d'autres ensuite, qui d'ailleurs constituent, et vous voyez que là, c'est la permanence des choses, fin 15e, ce sont les premiers lithographies, en quelque sorte, des danses macabres qui sont vulgarisées par l'imprimerie. Bon, qu'est-ce que c'est que la danse macabre? Ça, c'est très intéressant.
Oui, c'est ça la question.
C'est très, très intéressant. On a dit, voilà, c'est l'idée que la mort est égale pour tous. Oui et non. Oui et non. Oui, parce que la mort vous entraîne et entraîne chaque groupe social dans ce qu'est la communauté d'une danse, avec l'unité...
Avec ce qu'il y a d'irrésistible à la danse. Oui, voilà. Oui.
Et l'uniformité que crée la danse. Mmh. Et que crée la mort, puisque vous avez des squelettes.
Mais, dites-vous.
Mais, c'est bien plus subtil. Parce que chaque groupe social reste représenté avec ses attributs. L'évêque, avec sa mitre. Le pape, avec sa tiare. Le roi, avec sa couronne. Le moine, avec sa tonsure. La prostituée, avec son habit. Le paysan, avec l'instrument
chacun
de labour.
Chacun est bien dans ses attributs. Hein,
chacun reste dans ses attributs. Et là, vous avez toute la société médiévale comprise dans cette image. Il n'y a rien de pire pour la société médiévale de ce temps-là que l'uniformité. C'est ce que René Girard rappelle justement l'éclipse du culturel. Revenir à l'uniformité, être comme l'autre. Il faut être différent de l'autre dans une hiérarchie accepté et visualisé par l'habit.
C'est ça. Jusqu'à quelle réflexion peut porter cette étude du phénomène de la peste? Merci beaucoup Claude Gauvard. La conclusion, c'est peut-être que l'instinct de vie aura été plus fort. Hein. Il y a eu quand même une sorte... La société dans ses structures, mais aussi dans sa chair, à surmonter cette peste noire des années 1349-1350, elle en est sortie d'une certaine manière plus forte et plus vitale. C'est peut-être ça, finalement, le mot de la fin. Merci infiniment. Je rappelle, entre autres ouvrages, bien entendu, ce dictionnaire de l'historien que vous avez dirigé. Alors, il y a énormément d'auteurs sous votre direction, donc Claude Gauvard avec Jean-François Cirinelli. Merci beaucoup.
Un instant, Franck Ferrand vous répondra à la question d'Audrey qui veut en savoir plus sur les origines du nom des continents.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Alors Franck, aujourd'hui je vais vous lire la question d'Audrey qu'elle a postée sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Salutations d'abord à toute l'équipe, merci Audrey. Pourriez-vous revenir sur l'origine des mots Asie et Afrique pour désigner le nom des continents ?
Alors, d'abord, les continents. D'où ça vient, continent? C'est du latin continens, hein, c'est ce qui se tient, c'est ce qui est solide. Donc, c'est un ensemble cohérent de terres, bien entendu. Combien en a-t-il de continents? Certains disent 4 si l'on retient l'Europe et l'Asie dans un seul continent. D'autres disent 7 en faisant la distinction entre Amérique du Sud et Amérique du Nord. Bref. Les noms des continents. Alors l'Afrique d'abord. Le nom Africus était donné par les Romains à la province qui se situait dans l'actuelle Tunisie, vous savez. Et il semble que ça vienne du nom d'un vent, un vent pluvieux, qui venait de la région de Carthage. Donc c'est très très pointu. Ce sont les Romains finalement qui ont ainsi dénommé cette toute petite partie de ce qui allait devenir le continent africain. Bon, l'Europe, ben, vous connaissez la déesse Europe, ça viendrait du phénicien Ereb qui veut dire le couchant, et Assou, le levant. Donc l'Europe c'est l'ouest et Assou l'Asie c'est l'est. L'Amérique vient, vous le savez sans doute, du nom d'Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, ce géographe navigateur florentin qui en 1502 a été le premier à émettre l'hypothèse que les terres découvertes par Christophe Colomb formaient un continent à part entière. Donc on a donné à ce continent le nom de, enfin son prénom, hein, Amerigo, c'est devenu l'Amérique. Pourquoi l'Océanie? Bon, là, c'est tout simple, hein, ça découle du mot océan. Ça, tout le monde aurait pu le deviner. C'est le géographe Conrad Maltebrun qui a donné ce nom à l'Océanie. On est en 1812, hein, Conrad Maltebrun. Et puis, on devrait faire une émission sur Maltebrun. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. Et puis, l'Antarctique, qui est un continent, à la différence de l'Arctique. Alors, vous savez que l'Arctique, ça vient du mot ours, arctos en grec, ours, parce que c'est la constellation de la Grande Ourse, dont l'une des étoiles désigne le pôle Nord. Et l'Antarctique, eh bien, c'est l'anti-arctique. C'est à l'autre bout du monde, tout simplement.